Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis avec une autre podcasteuse, je suis tellement contente, Laurence Bergeron. Salut Laurence!
Allô, ben merci pour l'invitation, je suis super contente d'être ici.
Ben merci à toi. Là, t'es nutritionniste, t'es podcasteuse, t'es autrice d'un blog, puis t'es autrice de livres aussi. Là, je savais que ça marcherait pas visuellement, parce que les gens qui nous voient pas, là, je sais pas si toi, t'as le livre proche, tu pourrais nous le montrer. Oui, merci, il est tellement magnifique. Il est vraiment, vraiment beau. La Bible des collations, fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, un gros merci pour l'invitation. Je suis vraiment super contente. Puis, mon Dieu, oui, c'était un long titre.
Oui, c'est correct. On aime ça.
C'est dur de devenir auteur, blogueur. On dirait qu'on porte un million de chapeaux. Donc, mais oui, donc pour faire une petite introduction courte, alors moi, je suis nutritionniste. J'ai mon blog Libre de manger depuis, ça va faire 7 ans cet automne. Mmh. Donc, bientôt 7 ans que j'ai mon site web. Sur mon site web, je partage majoritairement des recettes et je partage sur mes réseaux sociaux du contenu pour aider les gens à avoir de belles relations, une belle relation avec la nourriture et leur corps pour qu'eux aussi se sentent libres de manger comme moi. Donc, ça part en fait d'un passé de troubles alimentaires qui m'a amenée drôlement, un peu ironiquement, dans ma passion de la cuisine, de la nutrition. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je suis devenue nutritionniste et que j'ai voulu lancer ma propre plateforme. Mon blog pour aider les gens à ma façon à se sentir un peu plus libre de manger. Donc, je partage du contenu dans ce sens-là depuis maintenant 7 ans. Et j'ai publié mon premier livre de recettes en 2021.
Ah, c'est ça, je n'étais même pas au courant, imagine. Je regardais ton site, je suis comme, quoi? Elle avait un autre livre de recettes? Shame on me, je ne savais pas.
Donc, ça fait environ un peu plus de deux ans que j'ai lancé mon premier livre qui s'appelle « Libre de manger, mon approche anti-diète en 80 recettes gourmandes et nutritives ». Et là, mon petit nouveau, « La Bible et les collations » qui est sorti à peine. Donc,
je tout suis... Tout frais grand... sorti du four. Tout chaud sorti du four.
C'est ça, comme de bonnes collations.
C'est ça, j'aime ça. Ah, moi, j'aime ça, Laurence, je t'ai juste comme introduit, puis tu m'as starté ça, j'adore ça. Ça paraît que t'es habituée. J'adore ça, je mets mon cerveau au ralenti, c'est parfait. J'adore ça. Fait que oui, c'est une de mes questions, justement, c'est d'où vient le nom « Libre de manger ». On s'en doute un petit peu l'histoire derrière, mais je trouvais ça quand même bien de le mettre en contexte parce que t'as quand même une très bonne communauté là, sur les réseaux sociaux avec ton blog, ben, ton Instagram « Libre de manger ». Fait que probablement qu'il y a des auditrices et peut-être certains auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent ce nom-là finalement.
Oui, puis on peut un peu le deviner avec le nom, mais c'est pas tout le monde non plus. Quand des fois je prends le temps de l'expliquer, les gens ils me disent « Ah, ben oui, ça fait du sens, j'avais pas pris le temps de m'attarder à ça. » Mais oui, non, c'est ça, quand j'ai lancé mon blog il y a 7 ans, bientôt 7 ans, au début, c'est dur de trouver un nom, je trouve, qui parle et qui donne une raison à qu'est-ce qu'on fait. Et au début, on dirait que je m'attardais surtout à l'esthétique du nom, donc j'essayais de trouver quelque chose qui sonnait cute, qui allait être mignon, qui allait être beau, qu'on allait s'en rappeler en le nommant. Mais il n'y avait rien qui me venait, puis il n'y avait rien, on dirait, qui faisait du sens. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, j'arrête, là », parce que je commençais à griffonner dans plein de cahiers. J'essayais de faire comme des mix and match de noms, puis c'était donc compliqué, là, puis j'aboutissais à rien. À un moment donné, je me suis arrêtée, puis je me suis dit « OK, pourquoi j'ai commencé à cuisiner? C'est quoi la base? » Je vais retourner aux sources. Pourquoi? Puis quand j'ai commencé à cuisiner, en fait, j'avais un trouble alimentaire à ce moment-là, puis c'était le seul moment dans ma journée où je pouvais mettre à off ma petite switch de trouble alimentaire dans ma tête, parce que ça, c'était omniprésent, je pensais tout le temps à ça, c'était la première chose que je pensais quand je me levais le matin, c'était la dernière chose que je pensais quand je me couchais le soir. Mais quand je cuisinais, j'avais aucune compétence en cuisine, puis aucun intérêt
pour la cuisine. C'est bien drôle!
Donc, quand je cuisinais, je voulais tellement réussir ma recette que j'étais super focus sur ma recette, super concentrée. Donc, c'était vraiment le seul moment que je pensais pas à mes problèmes, je pensais pas aux calories, au poids, à la culpabilité. Puis, j'étais juste dans une phase de « OK, je cuisine, je veux réussir ma recette ». Puis, c'était un moment de liberté pour moi. Donc, quand je me suis posée Là, pourquoi j'ai commencé à cuisiner, c'est le mot liberté qui m'est venu tout de suite en tête. Et dès que j'ai eu le mot liberté, j'ai dit libre de manger.
Ah,
Ça
c'est bon, j'aime ça.
c'est venu instantanément, puis là, j'étais là, oh mon Dieu, libre de manger. Sur le coup, je savais pas si c'était beau, je me disais libre de manger. C'est pas nécessairement un nom qu'on choisit pour l'esthétique, mais en
Ben
termes de
tout,
sens.
ça le dit, là. Ben oui, c'est ça, c'est clair, là.
C'est tellement, c'est ça. Je me suis dit, ça va me rappeler à tous les jours le pourquoi je fais ça et je trouve que c'est très parlant. Donc, ouais, je suis bien contente du nom. Puis j'ai eu beaucoup de beaux commentaires sur le choix du nom depuis les dernières années. Alors, très contente, ouais.
C'est super, génial. Fait que oui, c'est ça. Puis, dans le fond, t'as parti le blog, tout ça, mais parce que j'ai écouté ton, je pense, le dernier épisode de podcast, puis là, il y avait une question sur quel type de nutritionniste. C'est une nutritionniste plus de, c'est comme on connaît, là, qui fait des rencontres en one-on-one avec les gens, puis tu dis, ah non, moi, c'est comme une autre branche, mais je trouvais ça intéressant d'ouvrir cette porte-là aussi, parce que c'est peut-être moins connu un peu, ben déjà d'emblée, qu'il y a plein de possibilités, là, avec le travail de nutritionniste, mais... Tu sais, toi, t'en es un exemple aussi. J'ai 1 million de branches, là, fait qu'on commencera pas à faire mon pedigree, ça va être compliqué, là, mais tu représentes bien, justement, le parcours qui est pas classique de la nutrition. Je trouve ça intéressant qu'on l'aborde un petit peu, tu sais, justement, c'est pourquoi avoir choisi ça, en fait, tu disais, la nutrition t'a attiré, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, puis pourquoi avoir choisi ce modèle-là, finalement?
Oui, puis je trouve ça intéressant à parler parce que justement, quand je dis aux gens que je suis nutritionniste, d'emblée, les gens pensent automatiquement que je fais de la consultation. On dirait que c'est l'image très typique qu'on a de la nutritionniste et avec raison parce que beaucoup font de la consultation. Mais il y a tellement, mon Dieu, il y a 1 million de branches. Moi, en fait, c'est parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, ben avant, c'est venu par un intérêt par la cuisine. Et après ça, ça s'est développé en intérêt pour la nutrition. Mais la cuisine était là un petit peu avant la nutrition. Puis quand j'ai commencé à étudier en nutrition, on dirait que je voulais que les deux se combinent. Je voulais essayer de trouver une façon de venir mixer les deux ensemble qui sont très interreliés. C'est ça, j'avais cet intérêt-là de. J'ai toujours été quelqu'un de très artistique qui aimait créer. Je faisais de la danse, j'ai fait de la danse de
Ah
compétition.
ouais,
Ça a eu
nice.
une grande place dans.
Quel style de danse, là,
Un peu de tout,
ça
mais surtout.
me parle. Surtout du hip-hop, ça a coupé, excuse-moi. Ouais. Ah, cool. Ouais, je fais. Nice.
À différents styles. Puis j'ai été prof de danse aussi pendant 9 ans, là. Donc,
Oh, très cool.
ça a
Ça vient
été.
chercher mon petit côté danse aussi, là. Mais très, très loisir, là. On est loin de la compétition, mais j'en ai fait toute mon adolescence. Puis j'en fais encore aujourd'hui. Mais là, c'est ça. Ça rentre plus dans mes horaires, mais ouais, j'aime ça. Je trouve que c'est vraiment un art qui est vraiment chouette, vraiment complet.
Ouais, c'est quel style que tu fais?
Ben, c'est une ballet contemporain, ben, ouais, danse contemporaine, jazz, mais pop, non, non, non. C'est vraiment pas ma vibe. J'ai vraiment une formation de ballet de base, là, fait que, en tout cas, pour les gens qui savent un peu, là, mais mon amie elle fait les deux très bien. Elle fait le ballet puis elle fait le hip-hop vraiment bien. Mais mon corps ne comprend pas le hip-hop. Vraiment, c'est pas pour moi. C'est comme vraiment drôle, là. Non, j'ai essayé, mais non, j'ai abandonné.
Moi, c'est le ballet. Le
Ah
ballet,
ouais?
c'est quand même pas facile. C'est toutes les
Ouais.
postures. Moi, naturellement, j'ai des problèmes de genoux quand je suis née, en fait. Je suis comme née, les genoux croches, si on veut. Fait que je portais des orthèses quand j'enfant.
Ah
Donc,
ouais.
naturellement, d'ouvrir les pieds, puis les genoux, puis les hanches en ballet, pour moi, c'était tellement douloureux que c'était mon corps suivait pas, là. Donc, moi,
Non,
c'est.
c'est ça. J'ai zéro flexibilité, vraiment, là. Vraiment, vraiment pas. J'ai zéro ouverture de jambes. Mais j'aime ça, puis j'ai du plaisir. C'est ça le but.
Qu'on a du fun.
Oui,
Mais
exactement.
oui, c'est ça. Donc, pour revenir à ça, c'est ça. J'ai toujours eu un grand besoin de créer, puis un côté artistique. Et c'est ça. Puis en fait, quand je suis rentrée au bac en nutrition, au début, je m'étais dit, ah, j'aimerais ça lancer mon blog de cuisine. J'ai lancé mon blog Libre de manger après ma première année comme étudiante au bac. Et plus ça allait, plus ça prenait de l'ampleur, puis plus je me disais, ah, je me verrais que ça devienne quelque chose de plus gros. Et je me voyais pas nécessairement temps plein dès le début. Mais je me disais, ah, je pourrais faire un petit consultation à temps partiel, spécialisée en troubles alimentaires, puis avoir mon blog, puis créer des recettes. Comme ça, je trouverais un équilibre entre les deux. Mais on dirait que plus ça allait, plus le temps avançait, plus ce côté-là créatif de faire des recettes, faire des vidéos de recettes, puis mon rêve aussi de faire 1 million de livres de recettes, d'avoir une bibliothèque de livres de moi. Donc, plus ça évoluait, plus ça avançait, je me disais, ah, je voyais le potentiel de peut-être le faire à temps plein. Donc, là-dedans pour vraiment le côté créatif, puis j'aime être ma propre patronne également.
Je comprends ça.
Donc,
Ah, bien, c'est le fun. Bien, je trouve ça bien qu'on puisse voir ces autres facettes-là de notre métier, en fait. Donc, merci.
On est moins habitué de voir de la nutritionniste. Il y a 1 million de façons d'être nutritionniste.
Ah, vraiment?
La oui, façon
Oui, puis même quand on dit en consultation, souvent les gens vont voir à l'hôpital, en consultation, dans un lit d'hôpital, il y a de ça, puis il y a des gens qui comprennent, qui comprennent pas, mais qui n'ont jamais eu à, puis c'est une bonne nouvelle, là, à voir aussi des besoins vraiment spécifiques de la nutrition dans le traitement ou qui fait partie de certaines pathologies, certaines maladies, mais il y a le côté aussi individuel, assis dans un bureau où effectivement il y a de la consultation, c'est ça, il y a tellement de facettes. Je reviens à notre sujet principal. Mais c'est ça. Fait que oui, je trouvais ça intéressant d'en parler puis de voir un petit peu d'où est venue l'idée derrière. Puis j'avais le goût de te demander, c'est quoi l'avantage selon toi d'écrire des livres de recettes et d'être nutritionniste? J'ai des pistes là, mais je voulais t'entendre là-dessus.
Mm-hmm. Ben, je pense que pour le public, c'est intéressant parce que la nutritionniste, c'est l'experte en alimentation puis en nutrition. C'est la seule experte qui est reconnue dans le milieu. Donc, d'avoir un livre de recettes créé par une nutritionniste, ben, c'est un gage de qualité, c'est un plus-value. On est sûr d'avoir des recettes qui sont équilibrées, qui sont nutritives, pour la santé, puis de l'information aussi qui est fiable, donc pour le public, c'est super intéressant, et c'est ça, donc la nutritionniste, vu que c'est l'experte, puis je pense qu'elle a beaucoup de nutritionnistes, pas tous, là, mais je pense que la plupart des nutritionnistes, on est des passionnés de la cuisine, vu que c'est très, nutrition cuisine, c'est très relié, là, donc je pense qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui ont cet intérêt-là pour la cuisine, puis de faire des livres de recettes, donc je pense autant pour le public que pour la nutritionniste, c'est gagnant-gagnant.
Oui, vraiment. Oui, je partage pas ta passion, mais je la respecte totalement. Je suis comme là-dessus, là, j'aime ça cuisiner, mais c'est pas une passion, vraiment pas. Vraiment pas, mais mes clientes le savent. J'ai plein de recettes que je partage quand même, mais c'est comme si c'est le running gag de comme, c'est correct, si vous aimez pas cuisiner, je vous comprends. Mais je déteste pas ça, mais des fois c'est lourd. Je comprends mes clientes qui me disent, des fois c'est lourd, puis je suis comme, oui, oui, moi aussi, des fois c'est lourd, je comprends. Mais je trouve ça vraiment chouette d'avoir des collègues qui ont ce désir-là, justement, puis ça permet... C'est là où on est toutes complémentaires. On peut pas toutes avoir des forces dans tous les domaines. Fait que c'est la beauté de la chose aussi. Moi, j'apprécie d'avoir des collègues qui écrivent des livres, parce que je le ferais pas. Mais en plus, mais j'ai remarqué aussi, en fait, c'est l'avantage dans le livre, t'as souvent... Bien, premièrement, au début du livre, tu vas vraiment expliquer un petit peu c'est quoi une collation nutritive, parce que là, ton livre, c'est la bible des collations, donc de parler de c'est quoi une collation nutritive en tant que telle, parce que ça aussi, il y a plein de mythes qui circulent sur les collations, donc j'ai apprécié l'introduction sur ce que c'est, même tu as des petites idées rapides qu'on donne en consultation aussi de collations qu'on peut, d'aliments qu'on peut juste mettre ensemble pour que la collation soit équilibrée, mais c'est quoi une collation équilibrée, en quoi ça consiste? J'ai noté aussi que dans plusieurs recettes, tu disais c'est quoi l'avantage ou comment on pourrait optimiser ou interchanger certains ingrédients, puis le pourquoi. Fait que ça aussi, je pense que ça peut être super intéressant que ce soit fait, comme tu dis, par une professionnelle de la santé qui connaît un peu les avantages de tout ça, parce que en nutrition, c'est facile, la désinformation, particulièrement sur les réseaux sociaux. On te comprend.
Oui. Okay. Ça, c'est vraiment un outil qui a été créé, c'est un livre, c'est un outil qui a été créé pour que ça soit complet, puis que c'est vraiment super pratique pour les gens, et comme tu dis, il y a des idées de substitution, donc si les gens n'ont pas certains ingrédients, ils peuvent substituer ces ingrédients-là par un autre par qu'est-ce qu'ils ont sous la main, et ça a vraiment été pensé dans ce sens-là, que les gens puissent l'adapter à eux.
Mais c'est ça qu'on veut, oui.
Mais oui, exact. Ça vient puis leur version des collations, et c'était vraiment ça.
Puis c'est bien parce que c'est quelque chose que j'entends souvent aussi de « Ah, tu sais, moi, j'ai pas le temps ou j'aime pas cuisiner, ben quand je vois qu'il y a trop d'ingrédients ou c'est trop compliqué, ou tu sais, les gens qui sont justement pas très à l'aise avec la cuisine, ils feront pas là, la substitution, là, ils savent pas là, que tel aliment, c'est pas grave si c'est pas dedans, puis tu sais, ça va lever quand même, ça va fonctionner quand même, ou l'équilibre va être là quand même. » Tu sais, quand on n'a pas cuisiner un petit peu au début, c'est dur d'avoir cette pensée-là. Fait que rapidement, on peut s'arrêter à « j'ai pas l'ingrédient, donc je peux pas faire la recette, donc je la ferai pas. Puis là, on parlera pas de l'organisation, d'avoir les ingrédients pour les recettes qu'on prévoit de la semaine. Là, mettons, on est dans la vraie vie, une semaine que t'avais pas prévu que tu voulais faire la collation de Laurence aujourd'hui. Mais il y a des idées de substitution, fait que je trouve ça bien. Puis j'ai vraiment aimé les petits aliments astucieux, là. C'est là où je trouvais que la petite touche nutritionniste se faisait voir un petit peu plus, là, justement, si tu veux acheter plus de fibres ou plus de protéines, à quel aliment fait-il telle valeur ajoutée. Donc, je trouvais ça bien intéressant aussi.
Oui, c'est ça, comme tu dis, la petite touche de nutritionniste, parce qu'en fait, la... mon Dieu, là, j'espère, parce que là, c'est l'arrivée du printemps, fait beau, joueur et les fenêtres, mais là, le camion à déchets passait chez nous.
C'est parfait, il n'y a pas de problème. C'est très drôle.
C'est ça, donc en fait, la particularité vraiment de ce livre-là, c'est que c'est un livre de collation, mais pas juste des collations maison qui sont bonnes au goût. Je voulais vraiment faire un livre de collation soutenante, collation vraiment soutenir. Et c'était vraiment... moi, je suis une grande passionnée des collations maison depuis tout le temps. Là, quand j'ai commencé à cuisiner, en fait, il y a 7 ans, c'était d'abord des collations que j'ai commencé à faire. On dirait que c'était moins intimidant, puis tout ce qui était plus pâtisserie, la danse sucrée, ça m'interpellait. Et j'avais fait un premier e-book en 2020, quand je venais de graduer du bac en nutrition, et c'était sur les collations. C'était 15 collations nutritives et soutenantes, et les gens avaient adoré la thématique. Les gens me disaient à quel point c'était un besoin qu'il y avait. Donc, je voyais que le besoin était là, puis c'était un petit e-book de 15 collations. Donc, c'est un peu une introduction sur le sujet, et ça m'était resté en tête. Je me disais, je vois que le besoin est là. Je trouve que je voulais faire quelque chose de plus gros par rapport à ça. Puis, pas juste un petit e-book, je voulais aller faire autre chose. Puis, je me suis dit, je vais faire un livre complet.
Ben, pourquoi pas?
C'est ça, de 100 recettes complètes. Donc, c'est vraiment, c'est ça, des collations nutritives et soutenantes, nourrissantes. Et pour que ça soit soutenant et nourrissant, il faut que ça contienne deux choses. On veut des glucides pour le boost d'énergie rapide. Et on veut des protéines et des fibres pour que ça puisse soutenir plus longuement. Et dans une collation, il n'y a pas nécessairement toujours ça. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça mes petits aliments astucieux, comme tu le mentionnes. Là. En fait, les aliments d'aliments qui vont venir enrichir mes collations de protéines et de fibres pour que mes collations soient plus nourrissantes et qu'on n'ait pas fait après 30 minutes. Parce que c'était ça, en fait, c'est que les gens me disaient « Ah, t'as-tu ça des collations que je n'aurais pas fait après 30 minutes? » On dirait que peu importe ce que je mange, j'ai faim un peu de temps après. Donc, c'était vraiment pour combler cette problématique-là. Là.
Oui, puis c'est que des fois, tu sais, quand on reste dans la collation, qu'on n'a pas besoin de cuisiner, puis qu'on fait juste jumeler justement deux aliments, une source de glucides, une source de protéines, des fois, le commentaire, c'est « on dirait que j'ai l'impression de tout le temps manger la même chose », puis tu sais, il y a des gens qui vont manger 2 à 3 collations par jour, tout dépendant de, bon, chaque personne, niveau de faim, heure de repas, etc. Là, c'est personnalisé en fonction de chacun, mais c'est ça qui est le commentaire des fois qui revient, dis-moi, ça va, c'est 2-3 collations par jour, puis là, je suis comme tannée un peu de manger la même chose. Fait que c'est le fun d'avoir aussi des idées de recettes qui sont quand même rapides. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a des recettes salées aussi. Parce que, tu sais, à collation, on va souvent penser, tu sais, collation cuisinée, on va souvent penser à boule d'énergie, muffins, galettes, tu as de tout ça qui ont l'air délicieux, là. C'est vraiment pas un commentaire négatif, tu as tout ça, puis c'est super. Mais le commentaire que moi, je reçois souvent en clinique, c'est « Oui, mais j'ai le goût de salé, qu'est-ce que je peux manger? » Puis là, ça c'est comme moins... j'aurais le goût de dire comme moins connu. Exemple, un muffin salé, c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a des recettes qui existent. T'en as dans ton livre, il y en a toutes sortes d'autres aussi. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment un beau plus aussi, là.
Oui, c'est ça. Ben moi, de base, je suis vraiment plus dent sucrée. Mais quand j'ai créé ce livre-là, je me disais, je peux pas ne pas penser aux gens qui ont la dent plus salée. Parce que c'est ça, effectivement, il y en a que eux, leur collation, souvent, c'est plus pour un penchant salé. Ils veulent quelque chose de plus salé. Donc, pour combler les gens qui ont la dent salée, il y a un dossier sur les collations salées dans le livre. Avec, par exemple, j'ai un pain sucré salé, que c'est pommes d'arbre. J'adore. Comme tu dis, les muffins salés, c'est des muffins style pâté au poulet. Donc, il y a du poulet, des légumes qu'on retrouve classiques dans le pâté au poulet. Donc, il y a du croton aussi, l'anti-corail à l'érable. Il y a un peu de tout pour tous les goûts. Je voulais vraiment que ça soit un livre qui s'adresse autant pour les enfants, pour la boîte à lunch, que pour les parents, que pour l'étudiante à l'université, que pour la personne âgée qui a un appétit qui est plus petit, que des fois un gros repas, si la personne a moins faim, ça peut être plus une petite collation qui est plus protéinée, qui peut venir combler la faim. Donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout public et pour tous les goûts. Donc, comme tu dis, salé, sucré, il y a un peu de tout, là.
Oui, puis ça intègre aussi les protéines végétales. Fait que ça aussi, c'est un autre point. C'est de tout, là. T'as des protéines animales aussi, mais tu sais, légumineuses, les tartinades de tofu. Fait que aussi, c'est des choses qu'on pense pas toujours à intégrer dans les collations, mais qui peuvent être intéressantes à revisiter autrement ou justement pour les intégrer, pour commencer des fois à certaines recettes comme les fameux croûtons végés, là. C'est quand même winner, là.
Oui, c'est ça. Puis c'est vrai pour quelqu'un qui est un peu plus réticent, des fois, de l'effet de ne pas voir la légumineuse, mais ça peut aider, l'effet de ne pas croquer directement dans toutes les
Ça.
légumineuses, texture un peu plus pâteuse. On peut tranquillement se diriger vers ça, mais au début, de le camoufler, des fois, ça passe mieux. Donc, oui, j'ai beaucoup de recettes avec des légumineuses, pois chiches, haricots noirs, haricots blancs, lentilles, tofu. J'ai une mousse au tofu, mousse chocolat tofu avec du tofu extra ferme. Généralement, avec du tofu
Ouais,
sous.
oui, c'est ça.
Mais bien, si tu le mélanges, un peu une texture de yogourt, mais avec des petits tofu extra ferme. On voit moins ça.
Vraiment? Je suis curieuse.
Ouais, c'est ça. Quand j'ai développé la recette, au début, j'étais comme, est-ce que je suis trop ambitieuse?
J'avoue que je suis vraiment curieuse. Ouais, OK.
C'est ça, mais on mélange bien dans le robot avec les. On ajoute du sirop d'érable, la poudre de cacao, du yogourt, et mélanger ensemble après, là, ça. Moi, je trouve que ça goûte le chocolat noir un petit peu, là. Puis. Plein de gens qui l'ont testé. Dans la dernière semaine, j'ai plusieurs photos de cette recette-là d'ailleurs et les gens ont toutes adoré puis ils me disent toutes qu'on ne goûte pas du tout le tofu. Donc, ça passe incognito, là.
Eh bien, OK, j'aime ça, j'aime ça. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais qui est ta recette la plus funky ou la plus osée, je te dirais, dans le livre?
La plus osée. Ben ça, c'était quand même, je me trouvais audacieuse avec le tofu extra ferme.
Quand même.
Mais sinon, ben j'ai des. Mettons, j'ai des galettes vertes qui sont à base de petits pois. Que ça, je
Ah,
sais
quand même! Ouais.
que. Mais on les goûte pas, ça passe inaperçu. Donc, je peux les montrer.
Ah, wow! Ils sont magnifiques en plus!
Un
Ouais,
bon.
vraiment.
Pour des enfants, on peut dire que c'est des galettes fraîches.
J'aime ça! Des galettes crêpes. Ça passerait, ça, je pense.
Sinon, qu'est-ce que j'ai? Mon Dieu, plus audacieuse.
Ouais, je te sors une drôle de question, là.
Non, mais ça en est une bonne. Ben, j'ai beaucoup de trucs. C'est parce qu'en même temps, c'est parce que moi, je suis habituée. Fait, dans ma tête, on dirait que c'est pas tant audacieux. Mais pour que
Ouais.
ça
Ouais.
allait peut-être. Mais comme ici, j'ai des carrés brownies, chocolat, banane et haricots blancs. Donc, j'adore intégrer. J'ai beaucoup de recettes de muffins ou de carrés avec soit des haricots blancs, soit des pois chiches, soit des haricots noirs. Une fois mélangé dans le blender en purée, ça a une texture de smoothie. Donc, tu ajoutes ça avec les ingrédients secs et ça passe vraiment inaperçu. On s'en rend pas compte en termes de texture. Tu croques pas dans un haricot noir dans les brownies. Donc, ça pour quelqu'un qui est peut-être plus réticent ou qui n'est pas habitué, ça peut être un peu déstabilisant. Mais je vous le dis, quand on l'essaye puis on y goûte, ça goûte pas du tout. Là, j'ai des biscuits, haricots blancs, orange et chocolat. Mon chum dit que ça goûte.
Ça goûte quoi? Ça a coupé, excuse-moi. J'ai pas entendu ce que ça goûtait.
Céréales Fruit Loops.
Ça goûte la céréale Fruit Loops. Oh my God, OK. D'accord.
En tout cas, lui, c'est sa référence. Il dit que
Ouais,
ça goûte.
j'aime ça. OK, ben ça, c'est quand même funky, là.
Donc, ça goûte pas les haricots blancs, mais ça goûte les céréales Fruit Loops.
OK, merveilleux, merveilleux. Mais c'est vrai que c'est une belle façon de les passer, là. Souvent, c'est la texture là, que les gens vont avoir plus de difficultés. Puis je comprends, là, ça prend une adaptation. Puis c'est pas tout le monde qui va finir par aimer ça non plus. Mais c'est la texture plus pâteuse quand la fève est entière. Bien, le haricot est entier. Tandis que là, effectivement, mélanger, ça doit être super intéressant. Puis ça n'a pas un goût fort, là, surtout des haricots blancs. Ça ne goûte pas grand-chose, en fait.
Ça s'intègre super bien, puis ça rend le brownies beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus soutenant, vu que ça ajoute des protéines, des fibres. Donc, on s'en rend compte quand on le goûte, les gens, quand ils essaient mes recettes, ils me le disent, ah, ça m'a vraiment, je le sens que ça me nourrit, je le sens que c'est une collation qui est nourrissante, puis qui me soutient, puis on voit la différence. Puis là, tu vois, ça me fait penser à une autre recette que les gens pourraient trouver ça audacieux, c'est mes boules d'énergie. Ben, des boules style pâte à biscuits crus.
Ah, miam! Ah, c'est avec des pois chiches, c'est ça?
Avec des
Ah,
pois.
ouais! Miam! Eh bien, oui, c'est audacieux!
C'est pas cuire, c'est cru, puis
Ouais.
c'est à base de pois chiches, mais on le goûte pas du tout, du tout, du tout. Puis, écoutée aux gens. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était une de leurs recettes préférées.
Ah ouais, mais ça... Quel goût classique, on aime ça, là, recette pâte à biscuits. Hey, c'est bon en plus.
Mmh. Fait que trois saveurs, on peut soit les enrober dans la noix de coco, des petites pépites de chocolat ou des petites pépites d'érable après pour donner des twists de saveurs originales. Et on a tous déjà, quand on était jeunes, voulu manger la pâte à biscuits crue telle qu'elle, mais là, nos parents nous disaient « Ben non, tu peux pas! » Mais là, celle-là, vous pouvez!
Yay! Excellent, ça, super. Mais c'est vrai que ça a l'air super bon. Vraiment super intéressant. Puis justement, tu disais que les gens te renvoyaient un peu des commentaires, des photos, jusqu'à maintenant, tu dirais que c'est quelle recette là qui semble être les plus populaires?
Mmh. Oh mon Dieu, ça c'est facile.
J'ai entendu un certain Manfume, là, avec du macchiato, je pense. Je suis pas sûre de ce que j'avance, là.
Ah oui, mon Dieu, il y a tellement de gens qui l'ont fait. Donc, c'est un muffine macchiato caramel, c'est un muffin au café. Donc, café avec des pépites de caramel. Il y a de l'extrait de caramel à l'intérieur. Vous pourriez mettre de l'extrait de vanille, mais ça fait quand même la différence. Je trouve que ça vient rehausser le goût de caramel. Puis, un petit crumble sur le dessus. Donc, il est magnifique. On dirait un muffin du Tim Hortons, sincèrement.
Ah, wow! Ah oui, OK. Ouais, je comprends. Les gros morceaux chunk un peu dessus, là.
Ouais. Exactement. Ça, là, c'est un gros hit. Tout le monde adore ça. À la maison, les parents pourraient le faire avec du café décaféiné également pour, pour les enfants. Mais ça reste que, tu sais, l'apport par muffin est quand même assez petit en caféine. Là. Mais s'ils préfèrent, ils pourraient prendre du café décaféiné. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est tout le monde qui l'ont fait. Ils m'ont dit que c'était un gros hit, un gros coup de cœur. Mon chum veut que j'y fasse à chaque semaine.
Oh! Ouais, c'est ça. T'as tout un contrat à la maison après, là.
Parce que moi, j'aime ça tester des nouvelles recettes aussi. Là. C'est oui, des fois, il y a des recettes, j'aime ça faire souvent, mais j'aime quand même ça souvent faire des nouveautés. Mais là, des fois, il s'accroche à des classiques, puis comment on refait ça, refait ça. Puis moi, je veux juste essayer d'autres affaires nouvelles.
Oui, mais j'avoue que, effectivement, merveilleux. Puis je me demandais aussi, ben, tu l'as répondu un petit peu tantôt, là, à qui ça s'adressait un petit peu plus le livre, mais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux gens qui sont peut-être moins plus frileux à cuisiner, qui justement, comme on disait tantôt, qui se sentent moins leur niveau de confiance en leurs compétences culinaires est moins là, puis ils sont pas sûrs mm-hmm. si c'est pour eux.
Oui, bien, première chose, comme tu as dit en début, dans le livre, au début, il y a un tableau dans le livre avec, quand on est un peu moins à l'aise avec les recettes, bien, déjà là, il y a un premier tableau de 20 collations express. Donc, quand on est plus frileux, comme tu dis, pour commencer, ou peut-être qu'on n'a pas le temps de faire une recette, une batch de muffins, tu prends le tableau de 20 idées de collations express, puis c'est des mix and match. Donc, on a la colonne des aliments qui est une source de glucides et les aliments qui est une source de protéines. Et là, tu peux soit prendre les lignes, c'est comme fait par ligne, là, donc tu peux prendre un aliment glucide, un aliment protéine, ou bien tu peux faire des mix and match par colonne. Donc, ça peut faire des petites combinaisons comme ça de collations qui vont être nutritives et soutenantes. Et c'est ça. Donc, c'est une petite collation express qui est juste à assembler, dans le fond, qui n'est pas une recette en soi. Puis sinon, pour les recettes, c'est vraiment des recettes super faciles. Quand j'ai créé les recettes, c'était vraiment dans le but que ça soit peu d'ingrédients, des ingrédients que les gens connaissent. Dans certains aliments astucieux que je parle au début du livre, il y a peut-être certains aliments comme la PVT qui est moins un aliment que certaines personnes connaissent. Puis pour ces aliments-là, je pense qu'il y en a peut-être 5 ou 6 que je me disais que peut-être les gens connaissaient un petit peu moins. J'ai fait un petit texte descriptif pour présenter ces aliments-là puis dire à l'épicerie où est-ce qu'on peut les retrouver.
Ouais, c'est ça.
Mais sinon, les aliments dans le livre, c'est tous des aliments que les gens connaissent d'emblée, qui ont généralement dans leur garde-manger. C'est des recettes qui sont rapides, des recettes qui sont express. Il y a même des recettes qui se font dans un seul bol. Donc, c'est vraiment... généralement, on mélange dans un bol les ingrédients secs, dans l'autre bol les ingrédients rapides. On transfère un dans l'autre.
Oui,
on mélange.
Ça, là, c'est vraiment démotivant. Là. Des fois, je me dis, je fais-tu la recette? Non, deux bols, ça m'intéresse pas. Parce que, tu sais, des fois, tu fais ton souper et tu te dis, bon, ben, je pourrais aussi faire des recettes de dessert. Puis, non, collation. Tu sais, un bol, ça me va, là, des boules d'énergie, ça me va. Je mets tout ça à la même place, mais il faut que ce soit efficace, là. Fait que j'apprécie le souci. Ouais. C'est des commentaires que je reçois souvent aussi. Là. Il y a plein de techniques pour s'organiser en cuisine, mais c'est pas tout le monde qui veut s'organiser à ce point-là, puis c'est juste, on veut y aller au simple, au rapide, fait que c'est bien que ça a été pensé en conséquence.
C'est ça. Donc, c'est vraiment des recettes pour tous les niveaux, là. Même les gens qui sont peu à l'aise en cuisine, c'est très descriptif aussi, là. Quand j'ai fait le livre, je me suis assurée que mon éditrice, on a vraiment double-check, triple-check, vraiment, pour être sûre, OK, est-ce que c'est bien détaillé? On essaie de penser un peu aux questions que les gens pourraient avoir en lisant le livre, pour être sûr que chaque étape soit bien détaillée, puis que ça soit bien clair et qu'il n'y a pas place à des doutes, puis que la personne ne va pas se poser une question pendant qu'elle fait la recette. Oui,
ça, c'est clair.
Donc,
ouais.
Tout est vraiment... pour que ça soit pratique, que ce soit clair et que ce soit une recette qui est réussie. Puis au début du livre également, parce que ça reste quand même de la pâtisserie, tout ce qui est muffin, des fois pour les gens, ça peut être intimidant, tout ce qui est pâtisserie. Et il y a certaines erreurs, des fois, qu'on peut voir en pâtisserie. Donc, au début du livre, je partage les quatre ou cinq erreurs classiques que je constate. Donc, je partage mes petites astuces pour éviter de faire ces erreurs-là puis s'assurer de tout le temps réussir leur recette de collation à tout coup. Donc, peut-être commencer par lire cette page-là sur les erreurs avant de se lancer dans les recettes et ça va bien aller, là. J'ai confiance, là. C'est des recettes faciles.
Oui. Non, mais c'est une bonne idée quand même de penser à les erreurs les plus fréquentes parce que ça peut être un bon... Tu sais, des fois, juste ça, tu te dis « Ah, c'est nouveau, je l'essaye. » Puis « Ah, ben, je l'ai... » Tu sais, ça aussi, je l'ai déjà entendu. « Ah, ben non, mais moi, je suis pas bonne en cuisine. » J'essaie une recette, je la scrape, mais tu sais, des fois, c'est de retourner puis de se réessayer, mais en ayant ça en tête, je pense que ça peut être plus... ça met plus en confiance, en fait.
Oui, puis des fois, les gens peuvent faire la recette, puis après, ils comparent la recette à la photo, puis ils sont comme « Mais pourquoi? »
Ouais.
Ou ces muffins sont super gonflés, les miens sont tout petits, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben le fait de, si la personne, elle ouvre la porte du four au plein milieu de la cuisson pour faire une petite photo Instagram, ben là, les muffins peuvent, ils vont dégonfler. Ou si la personne a tendance à trop mélanger, ça c'est un truc que je dis souvent, on mélange à la mixette. Bien, souvent, on a tendance à trop mélanger. Puis plus on mélange longtemps, on développe le gluten de la farine. Puis là, les muffins ont tendance à être plus secs. Ils vont être plus petits. Ils vont être plus durs. Donc, moi, je mélange tout le temps à la fourchette à cause de ça. Comme ça, je l'évite de trop mélanger. Donc, c'est des petits trucs comme ça que souvent, les gens ne se sont pas au courant. Et faut le savoir. Donc, c'est pour ça que j'en parle.
C'est bon. On aime ça. Parfait. Excellent. Puis, comme dernière question un peu... pas hors champ, mais on s'éloigne du livre, mais c'est quoi le processus derrière la création d'un livre de recettes? Parce que, tu sais, on peut voir ça et dire, mon Dieu, c'est beau, mais, tu sais, elle fait ça à temps plein, à quoi ça ressemble? J'aurais comme le goût d'explorer ça un petit peu.
Oui, c'est pas quelque chose que les gens parlent beaucoup, donc c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est très mystérieux, de questions par rapport à ça, puis avec raison. Donc, premièrement, on approche une maison d'édition, on propose un sujet, un projet, et là, si c'est un fit avec la maison d'édition, si la maison d'édition croit au projet, puis pense qu'il y a une demande par rapport à ça, bien, ils vont aller de l'avant. Et donc, après ça, on regarde le contrat, on signe le contrat, puis après, on tombe dans la production, dans la création. Donc, moi, ça a pris à peu près un an faire les recettes du livre, vu que je le faisais à temps partiel, en plus de mon blog et mes contraintes de ça. Donc, c'était quelque chose que je faisais ici et là. Donc, c'est beaucoup de... Au début, il faut penser aux idées de recettes. Donc, je vais faire... C'est quoi les sections du livre? Comme là, il y a 5 sections. Les collations sur le pouce, des collations salées, les collations pour mieux bouger. Donc, il y a une section pour les sportifs. Donc, des collations une heure avant le sport pour avoir un boost d'énergie pour l'activité physique en question. Il y a une section collation sans cuisson et collation tout en fraîcheur. Donc, pour le printemps, l'été, ça, c'est tout ce qui est smoothie protéiné, des mousses, des popsicles, donc des collations rafraîchissantes. Donc, c'est de penser à toute la structure du livre, commencer à penser à, OK, je veux des recettes de muffins, combien j'en veux, c'est quoi les combinaisons de saveurs que je veux faire. Et après ça, c'est d'écrire c'est quoi la structure du livre, c'est quoi les différentes sections. Après ça, c'est de se questionner, bon, dans ce cas-ci, c'est des collations, donc je veux des recettes de muffins, combien j'en veux, combien de pain, combien de boules d'énergie, c'est quoi les combinaisons de saveurs que je veux faire, est-ce que je veux des grands classiques. Dans le livre, il y a des galettes d'avoine, il y a des pâtes d'ours, un classique pain aux bananes, donc je voulais quelques classiques, mais pas trop. Je voulais aussi des recettes qui sortent de la norme avec des combinaisons de saveurs plus originales, donc c'est tout de penser à ça. Après ça, c'est d'écrire les recettes. Donc, pendant un moment, c'est quand même un processus. Puis là, c'est mon expérience en tant qu'autrice de livres de recettes, parce que roman, ça va quand même être assez...
Oui.
Mais pendant plusieurs mois, c'est quand même un processus qui est quand même assez solitaire parce que je crée les recettes puis c'est moi qui s'occupe de ça toute seule. Donc, je suis en grosse phase de test. J'achète beaucoup de aller-retour à l'épicerie pour... dans J'imagine. Mon cas, j'en ai acheté de la farine.
Ah oh, ouais, c'est clair, oh my God. Puis c'est parce que ça ne marche pas tout le temps. J'imagine du premier coup non plus. Tu sais, tu fais des ajustements.
Ah oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de tests pour toutes les recettes. Donc, j'ai passé beaucoup de farine, beaucoup d'œufs. Au Costco, il y a le 25 kilos de farine.
Oh mon Dieu, donc, OK, ouais.
Donc, ça coûtait cher en ingrédients. Donc, c'est ça. C'est plusieurs mois de tests. Et moi, je fais aussi les photos du livre. Donc,
ah, une fois que la recette... Oui, c'est toi qui fais ça, OK. Oh, wow.
Oui. Ça, c'est pas tout, je te dirais que c'est une minorité, là. Généralement, peut-être 98-99% des auteurs de livres de recettes, c'est pas eux qui font leurs photos. Donc, c'est quelque chose que je fais en plus. Donc, c'est honnêtement, c'est une double charge de travail.
Oui, j'imagine.
Tout le volet création de recettes, déjà là, c'est de la job. Mais là, après, il faut toutes les prendre en photo. Donc, il faut avoir les accessoires. Il faut prendre le temps de faire un beau petit setup, de la prendre en photo. Et une fois qu'on est satisfait de la photo, il faut l'éditer. Et donc, c'est vraiment c'est double de temps pratiquement. Puis une fois que tout ça, toutes mes photos sont prêtes, toutes mes recettes sont prêtes, moi, j'envoie tout ça à la maison d'édition. Puis là, après, c'est le processus de correction. Donc là, l'éditrice, elle va tout relire les recettes. Puis là, elle va tout standardiser. Donc, par exemple, c'était quoi? Des petits termes. Il y a certains termes qu'eux vont toujours utiliser dans les livres. Mettons, pour moi, j'avais Édition de l'Homme, donc pour tous leurs livres de cuisine, peut-être qu'il y a certains termes qui vont être standards, donc ils vont venir standardiser tout ça. Par exemple, moi, dans mes recettes avant, je disais enfourner pendant 20 minutes. Mais là, on a changé pour cuire au four pendant 20 minutes. Donc, des fois, c'est des petits détails comme ça qu'on peut. Pas nécessairement, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de petits détails. Donc, eux proposent les changements. Ils m'envoient un document avec tous les changements, mais qu'ils n'ont pas fait d'emblée. Ils mettent la proposition. En fait, je peux voir les changements qu'ils ont proposés, puis là, je peux soit accepter ou refuser les changements. Puis si je refuse, bien là, il faut comme trouver une entente, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et ce processus-là se répète quelques fois. Donc, c'est vraiment du back and forth, si on veut, de relecture, correction, et c'est ça. Puis une fois que tout ça, c'est fait, là, après, c'est la partie fun de tous ces graphismes. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu vois le tout prendre vie, parce que pendant des mois, moi, je crée les recettes, je fais les photos, mais il n'y a rien de tangible. Ça a l'air...
C'est un document à Word, là.
Comment?
C'est un document à Word, dans le fond, là, tes recettes, là. C'est comme...
Non,
c'est ça, je comprends.
C'est ça. Donc, une fois que tout est approuvé en termes de texte, il peut y avoir des changements un peu après, mais quand le gros était approuvé, là, après, ils mettent ça dans un document PDF vraiment sous forme de livre. Puis là, c'est l'équipe graphique. Moi, j'ai envoyé un mood board avec... Bien, ils ont pu s'inspirer aussi de mes photos de bouffe, mais envoyer un mood board avec les couleurs que j'aimais, le style d'écriture que j'aimais, un peu l'univers que je voulais créer avec le livre et beaucoup inspiré de mon blog déjà existant également. Et donc, ils sont basés sur ça. Puis après ça, ils ont choisi les écritures, les couleurs. Donc, tout ce que vous pouvez voir du livre, eux, ils m'ont envoyé ça dans un document PDF. Puis, tu sais, toutes les... Des fois, c'est des petits détails, mais les pictogrammes...
Oui,
ça a été dessiné par la graphiste. Donc,
Oh, wow!
Ici, tu sais, le pain, le premier mot, c'est une écriture. Puis après, c'est une autre écriture qui a été choisie pour le titre. Donc, il y a tout le temps deux écritures pour les titres. C'est des petits détails comme ça qu'on pense pas nécessairement. Mais tout ça a été réfléchi. Donc, après, ils me présentent le document. C'est comme le grand dévoilement. Ils me dévoilent tout ça. Puis là, après, je peux dire s'il y a des affaires que j'aime moins. Puis honnêtement, je pense que j'avais rien changé du graphisme.
Ah, wow, ouais, quand même.
Dès qu'ils m'ont dit ça, c'était... tellement beau. Ils ont vraiment compris exactement ce que je voulais, puis je trouve que c'était parfait. Fait que j'étais comme, j'aime tout.
Merveilleux. C'est le fun, ça.
Il y a toute la prise aussi de photos de la couverture qui a été faite dans ma cuisine.
Ah, wow! OK, c'est ta cuisine, my God!
Oui, bon, on la voit pas sur la... Au début, en fait, fun fact, on était censé me voir dans ma cuisine. Parce que j'ai rénové ma cuisine il y a un petit peu plus d'un an. Donc, j'étais comment ça pourrait être beau de faire une photo dans ma cuisine fraîchement rénovée. On pourrait me voir avec mes collections et tout. Puis là, finalement, il y avait trop d'éléments. Parce que sur une photo de couverture, on ne veut pas qu'il y ait trop d'éléments qui attirent l'attention. Parce que s'il y avait eu C'est comme là, on a la table avec les collations qui attirent l'attention. Mm-hmm. Moi, je suis... On a le titre. Mais là, si en plus le background bleu, à la place, c'était des armoires de cuisine, mais là, ça, il y aurait eu comme trop d'affaires.
Oui, effectivement. Ça,
les yeux n'auraient pas su où aller poser le regard. Donc, finalement, on a mis une toile de fond et, pour cacher les armoires.
C'est quand même drôle. Mais on la revoit, je pense, dans le livre de cuisine parce que j'ai vu j'ai tes belles affaires, il me semble.
On la voit dans le livre à la place.
C'est ça, c'est bon. Good, excellent.
Après, ben... il m'envoie des exemples de couverture, puis là, il fallait choisir c'était quoi la couverture, puis une fois que tout est approuvé, ça s'en va se faire imprimer, puis après, il est sur les tablettes.
C'est fou, hein, tout qu'un processus, c'est quand même. Ah oui. Ah oui, tout qu'une création.
Mais c'est vraiment passionnant.
Oui, j'imagine, puis j'apprécie, là, tu sais, je l'ai pas nommé, mais tu sais, moi, un livre de recettes, pas de photos, là, ça m'attire pas, là, vraiment pas. Fait que ça aussi, c'est vraiment chouette que, tu sais, oui, sont belles, mais tu vois vraiment pour chacune des recettes, tu vois ce que ça va donner. C'est pas tous les livres de recettes qui ont ça, puis ça, honnêtement, je pense que c'est... Je veux parler pour moi, mais je pense qu'en général, c'est quelque chose qui est quand même bien apprécié aussi.
Oui, puis c'est ça. Moi aussi, je trouve... Généralement, je suis une grande consommatrice de livres de recettes, puis quand j'ai pas une photo par recette,
ouais.
Non. Rare, je l'achète.
Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est comme... Ah, tu sais, déjà... Tu sais, déjà, dans le monde dans lequel on vit, c'est facile d'avoir des recettes sur Internet aussi. Fait que pour acheter un livre, il faut vraiment... Tu sais, il faut qu'il y ait un plus, là. C'est d'avoir la photo comme ça, de manipuler, de visuellement, c'est attirant. Ça prend ce petit plus.
Ça donne une idée du résultat final. Ça nous guide, en quelque sorte. Puis aussi, on mange avec les yeux.
Mais donc, c'est ça.
Quand je choisis une recette dans un livre, quand je feuillette le livre, ben, je veux être tentée par la photo. C'est la photo d'abord et avant tout qui va me donner le goût de faire la recette avant de lire. Donc, s'il n'y a pas de photo...
Exact. Oui, définitivement.
Mm-hmm.
Merci beaucoup pour cette belle présentation de ton projet, du livre qui est tellement magnifique. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Libre de manger, on peut te voir ton blog aussi, suivre ton blog, ton site internet libre de manger, excuse-moi, j'ai la misère avec ma prononciation. Et on peut t'écouter aussi dans le podcast Complicité autour d'un café que tu co-animes avec Sarah Girard, qu'on connaît sous le nom de Ma cuisine de tous les jours, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Un gros merci à toi. J'ai vraiment super apprécié, puis j'ai vraiment aimé ce beau moment-là avec toi.
Ben, ça me fait plaisir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vais mettre les liens de Laurence dans la description de l'épisode, puis également le lien pour pouvoir se procurer le livre. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Donc, merci Laurence.
Ben, merci à toi. Bye tout le monde.
Bye.
T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça me parle, mais ich, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé », bien ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Merci de ton écoute! Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi!